mais c'est la voie royale, celle de se confier en Dieu. Nous avons besoin de modèles. Alors évidemment, le modèle parfait de la marche de la foi, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. D'un bout à l'autre de sa vie, ce fut une vie de foi en Dieu, un homme qui se fiait à Dieu. Et puis nous avons d'autres modèles, d'autres témoins, comme cette longue liste d'Hébreux 11, où nous avons ces témoins de la foi, ces héros de la foi, et cette immense nuée de témoins qui nous a précédés, non, qui nous entoure. J'aime beaucoup ce présent. Mais pour qu'il soit réel ce présent, il faut étudier la vie de ces héros de la foi. Et que d'entre nous, dans des circonstances difficiles, nous en étudiant la vie d'Abraham, un homme qui a vécu environ il y a 38 siècles, il était là comme à côté de nous, avec ses hauts, ses bas, se confiant en Dieu, puis dans les difficultés, puis rétrogradant peut-être à des méthodes expéditives qui n'étaient pas du chemin de la foi. Ces témoins, qu'est-ce qui nous ont aidés jusque-là? Et Dieu veuille que nous soyons bien familiers avec leur histoire, parce que Dieu nous les a donnés dans l'Ancien Testament pour qu'ils soient une aide pour nous. Et puis, troisièmement, il y a des personnes dans notre vie que nous avons connues ou que nous avons entendues, dont nous avons entendu parler, qui ont été des modèles. Et pour moi, en tant qu'adolescent, j'ai eu un grand modèle, Hudson Taylor. Et puis après, un autre que j'ai entendu, enregistré, Erino D'Apozzo. Moi, j'ai deux modèles, deux professeurs, je dirais, dans cette marche de la foi, et qui nous sont en aide, avec mon épouse, en cours aujourd'hui. Je crois qu'on a besoin de modèles, pas seulement de principes. Alors, je vais... Hudson Taylor, j'ai découvert sa vie, sa biographie, j'avais à peu près 18 ans. Et je l'ai lu en trois volumes, deux volumes, et ensuite un volume. T'es captivé par cette biographie, je la recommande aux jeunes, elle est extrêmement riche. Et c'est là que, à cet âge, à votre âge, j'ai découvert ce qu'était la marche de la foi, et ça m'a fait envie. Parce que la marche de la foi, c'est pas quelque chose qu'on peut imposer à un croyant. C'est personnel. D'ailleurs, dans l'Évangile, le Seigneur dit « Ayez la foi par-devers vous-même devant Dieu ». C'est quelque chose d'intime. Et c'est quelque chose qu'on décide. Est-ce qu'après cette rencontre, vous allez décider « Oui, je veux faire confiance à Dieu dans les circonstances dans lesquelles je me trouve, pour la rentrée, pour ceci, cela ?» Au lieu de peut-être un petit peu soit me rebeller, soit être découragé. Et si nous faisions de cette circonstance une occasion de faire confiance à Dieu? Mais c'est quelque chose de volontaire qu'on décide. Si vous saviez dans quelle difficulté je me trouve, oui, mais est-ce qu'elle dépasse Dieu? Non. Donc, je peux lui faire confiance. Oui, mais je ne sais pas l'issue que ça aura. Oui, moi non plus. Moi non plus. Mais Dieu n'est pas dépassé, Dieu sait, et je peux lui faire confiance. Mais c'est un chemin difficile. Bon, Hudson Taylor, donc, m'a fait envie dans sa confiance en Dieu, sa marche de la foi dans des choses pratiques. Alors, je vais citer deux phrases, deux pensées de ce serviteur de Dieu, ce professeur en matière de marche de la foi, mais pas celui qui enseigne, mais celui qui vit. Il disait, un jour, il y a un chrétien qui est venu le voir et lui a dit, ce qui est assez classique, « Oh, vous savez, frère Taylor, ma foi est bien petite. » Et Hudson Taylor lui a répondu, « Ne vous occupez pas trop de votre foi. Occupez-vous de l'objet de votre foi, voyez, dans lequel le gant est fixé. » Parce que le gant lui-même, c'est rien. Oui, bien sûr, votre foi est petite, peut-être. Mais si l'objet de votre foi est grand, c'est l'essentiel. Deuxième pensée que j'aime beaucoup, qui est assez magistrale, je ne sais pas dans quelles circonstances il a dit, mais il ne faut pas oublier qu'Hudson Taylor, avec la mission en Chine, soutenait des dizaines et des centaines de missionnaires, financièrement et moralement aussi. Et un jour, il a dit, « Je n'ai plus rien, plus toutes les promesses de Dieu. » Rien plus toutes les promesses de Dieu, ça fait quand même beaucoup, vous croyez? Ça fait un bon total. Appliquez cela à vos circonstances. Rien, ce n'est pas toujours sur le côté financier, mais difficultés peuvent s'amonceler, des dépouillements, des choses diverses. Pour les personnes âgées qui n'ont plus les facultés de faire ceci, cela, elles peuvent dire aussi, je n'ai plus rien, plus toutes les promesses de Dieu. Ça, c'est une parole qu'il faut se souvenir, qui peut nous aider. Alors, le deuxième grand modèle, c'est un évangéliste italien, peut-être que certains le connaissent, enfin, il est auprès du Seigneur, mais l'ont connu, ou l'ont entendu, et je vais vous raconter l'histoire de la carte rouge. Je la raconte à la première personne, il me semble que c'est plus vivant. Il dit, en 1935, fut créé à Paris le Front populaire, de base communiste, socialiste. Et à l'époque, à Paris, il fallait prendre la carte rouge du Parti communiste et là on avait du travail. Mais sans cette carte, on n'avait pas de travail. Impossible de travailler sans cette carte rouge. Alors, on est jeune marié, on a deux enfants, on n'est pas riche. Si on la prend, on a du boulot, comme ils disent là-bas. Et si on ne la prend pas, on est sur la paille, comme ils disent aussi. Alors, il y a tout un combat qui se passe. J'ai une bonne compagne qui m'a toujours bien conseillé. C'est bon d'avoir une bonne compagne qui vous conseille bien. Elle a dit, on ne la prend pas. D'accord, mais tu prends les risques avec moi. D'accord, d'accord. Les choses n'ont pas traîné. J'ai perdu mon travail comme conducteur de travaux dans une grande entreprise du bâtiment de 800 hommes. Et les chrétiens, c'est pas des feignants, ils cherchent du travail. Je cherchais du travail partout, j'aurais fait manœuvre, n'importe quoi, pourvu que j'ai du travail. Ça durait 3 mois. Et un jour, il y a un monsieur qui m'arrête dans la rue, il me dit, voilà, j'aurai le plan d'une maison à faire, pour 50 francs, le plan d'une maison, parce que j'étais dessinateur en bâtiment. Alors, 3 jours et 3 nuits pour mettre bien au point ce plan pour 50 francs. Et quand j'ai reçu mes 50 francs, qu'est-ce que j'étais heureux. Et je suis retourné à la maison 14 kilomètres à pied, alors que j'étais conducteur de travaux. Et puis, toujours pas de travail. Quelque temps après, je trouve un petit travail. Un monsieur qui me dit, voilà, je cherche quelqu'un pour faire des dessins sur le textile. Bon, faudrait que je voie. Bon, d'accord, je peux le faire. Pendant 3 mois, j'ai travaillé, puis la fabrique a fermé, la crise, la carte rouge. Alors le diable revient à la charge. Et enfin, d'Apozzo, c'est le moment de te décider. Faut pas être surpieux. Tu as une famille. Ils n'iront pas te dénoncer chez ces momiens. Mais avec ma femme, on est demeuré ferme. Mais voilà qu'un jour, plus un centime à la maison. Ma femme me dit, et on n'a plus un centime à la maison. Et je n'ai plus de lait condensé pour les bébés, pour notre petite Claire. Notre petite Claire, maintenant, c'est une femme mariée. Mais elle était toute petite, notre petite Claire. Je n'ai plus rien. Donc je suis parti, raconte-t-il, contre Paris, en priant. On peut prier partout. On n'est pas mis en prison parce qu'on prie dans la rue. Mais oui, tu vois, Seigneur, je suis d'accord d'avoir faim pour ta gloire. Mais notre petite Claire. Puis, je suis arrivé, raconte-t-il, sur un pont à Paris. La foule passe. Les foules passent. Personne ne s'occupe de vous. Je me suis adossé au parapet et j'ai dit, Seigneur, ici, sur ce parapet, j'attends ce lait condensé. Amen. Il n'y a pas beaucoup de vaches à Paris. Hein? Ben oui, tu as dit dans ta parole, mettez-moi à l'épreuve. Tu vois, je suis à bout. Tout à coup, au milieu de la foule, une femme qui vient vers moi, la mère Raymond, je la connaissais un peu, c'était une sorte de sorcière. J'avais travaillé pour son gendre. Par-dessus le marché, voilà celle-là qui s'amène. Elle s'approche de moi, elle me dit, Monsieur d'Apozzo, suivez-moi. Oh, faut que je la suive. Parce que sinon, elle va m'injurier en public. Je l'ai suivie jusqu'à l'entrée d'une pharmacie. Je n'avais pas compris que Dieu me l'a envoyée. Elle est rentrée dans la pharmacie, m'a dit, attendez-moi là. Elle est sortie au bout d'un moment avec 3 boîtes de lait condensé sur les bras, en me disant, allez porter ça à votre femme. Vous devez en avoir rudement besoin. Il y a 3 nuits que je ne peux pas dormir à cause de ça. Au revoir. Et vous pensez que je suis parti, raconte-t-il, ventre à terre à la maison. Et ma femme aussi avait cru. Elle avait préparé l'eau tiède pour le bébé.